Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Bonjour et bon dimanche à tous et à toutes. On est ravis de vous accompagner en ce week-end de début de vacances de la Toussaint. Vous nous écoutez peut-être en podcast, en train de courir, en train de faire votre vélo, ou pourquoi pas du kitesurf. Par exemple, on sait que c'est une discipline qui plaît énormément à nos grandes gueules du sport. N'est-ce pas, Christophe
Tessieux ? Tu te moques ?
Bonjour.
Tu te moques, je vais t'amener, toi, tu vas voir, on va rigoler là.
Tu sais que moi, comme beaucoup de journalistes, je suis un sportif raté à la base,
oui, bah
surtout.
Oui. comme tous.
Hein, tu te considères.
Non.
Oh, non.
Moi, je suis un athlète.
Je ne considère pas journaliste.
Mais le problème, c'est quand tu es un sportif raté et un journaliste raté, qu'est-ce qui te reste derrière ? Tu es un peu emmerdé quand même.
Christophe Cessieux aurait dû venir avec un gilet pare-balles parce que Julien Beneteau, qui enchaîne samedi et dimanche, est venu charger.
Ça va répondre aux questions tennis dans le jeu du sport aujourd'hui.
Salut Julien. Oh là 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 là.
Ça fait ça, on voit là.
Il est arrêté.
Ça va Julien ?
Bien et vous ?
Content très bien, très bien, très bien. Julien qui m'a déjà fait une analyse de la journée de top 14, il m'a dit...
Cette chance de Denis Charvet.
On va refaire le vestiaire sur le chambrage d'hier. Fred Veil, c'est là, salut Fred.
Salut. Non, je ne fais pas de kitesurf.
Tu ne fais pas de kitesurf ?
Je vais prévenir, non.
T'as jamais essayé ?
Mais non, c'est le surf qui a peur, apparemment.
Ouais. Fred, d'ailleurs, on sera ensemble dimanche prochain, puisque les grandes gueules du sport se délocalisent au Havre pour le départ de la Transat Café L'Or. On sera avec Sarah Pitkowski. Tu nous parleras de foil, de voile.
Évidemment.
On ira tout là-haut, hein, remettre le mât.
Je suis pas sûr.
C'est plutôt à voile ou à vapeur
J'aime la voile.
Et le retour d'Alizé Cornet dans les grandes gueules du sport. Salut Alizé.
Salut tout le monde.
On est ravis de te retrouver, ça va ?
C'est le même sentiment, très contente d'être de retour.
Joueuse de tennis toujours en activité, Alizé ?
Non, ça allait officiellement retraité pour la deuxième fois, mais là pour de bon. Là.
On a que des retraités autour de la table. Christophe ?
Un petit comeback encore. Il n'y aura pas de
troisième comeback là. Enfin, deuxième du coup.
Tu as quel âge, Alizé ?
35 ans.
Mais t'as vu Djoko, il a quel âge ?
Ah oui, mais 39. Djoko, il mange des graines et c'est pas mon cas. Donc.
Toi, tu mangeais pambagna.
Exactement.
Allez, Niçois, ça y est.
On se reconnaît entre
nous. On va être mal,
Georges. Il y a beaucoup de Niçois autour de la table. On va pas se le cacher. Allez, au programme de vos grandes gueules du sport jusqu'à midi à 10h sur le ring. Tiens, Alcaraz et Sinner râlent sur le calendrier. Il leur arrive de rater des Masters 1000, mais ils étaient hier en Arabie Saoudite. Et l'Italien a gagné, empoché 6 millions de dollars pour un tournoi d'exhibition. Il a même gagné une raquette en or. Les exhibitions lucratives sont-elles une menace pour le tennis ? C'est la question que l'on va se poser. Captain Bates est de retour. Il met le brassard. Fred, la NBA reprend dans la nuit de mardi à mercredi. C'est le moment pour le basket français ? C'est ça, il se passe un truc ?
Je sais qu'il expliquait ça, oui, bien sûr que c'est le moment.
Ouais, c'est là.
Toujours le moment.
Avec lui, c'est toujours le moment. Ça fait 20 ans qu'il dit c'est le moment. C'est le moment, c'est la méthode Coué.
Oui, mais à un moment, ça va arriver. Ça, d'accord avec moi. Plus on va se rapprocher de plus en plus de ce moment.
Statistiquement,
le basket va dépasser le rugby en France. C'est ce que tu vas nous annoncer. Allez, les GG vont remonter le temps également aujourd'hui. Il y a 25 ans, moment de légende du sport, Ayrton Senna a percuté Alain Prost au Grand Prix de Suzuka au Japon pour remporter son deuxième titre mondial, un an après un accrochage déjà entre les deux pilotes. Peut-on tout faire pour gagner ? Peut-on tout faire pour gagner ? Ah, c'est une question morale, hein, comme on va se poser tout à l'heure.
Pas de morale.
Merci. Merci de préciser que l'année d'avant, il y avait eu la même chose dans le sens.
Je sais que Julien n'a aucune morale sur cette histoire-là. Ouais. Il est prêt à tout. Toi, t'es prêt à tout pour gagner.
Ah, bah nous, en équipe de France, on envoie des croche-pattes.
Je suis prêt à tout pour gagner, mais.
En l'occurrence, là. On en parlera.
On en saura un peu mieux sur vous, finalement.
Je vais déchanter sur mon ex-capitaine.
Dans le vestiaire, tiens, on va se poser la question, comment l'argent a guidé votre carrière ? On a parlé de Sinner et Alcaraz, on peut parler aussi de Dembélé qui espère une revalorisation salariale après son ballon d'or. On va parler argent, voilà. Hein, c'est tabou parfois en France, les sportifs, on vous attend au rendez-vous.
Vous avez gagné dans votre carrière quand même. faire une parade. Hein. Vous allez nous battre à plein de couture, nous,
je pense que sur le prize money.
On parle de ceux qui sont restés en France aussi ou pas?
Oh là là là. Bon, ça. Sortez vos feuilles d'impôt, on vous attend. Sur le buzzer du tennis de table avec la France en finale des championnats d'Europe par équipe pour la première fois depuis 1998. Ce sera face à la Roumanie à 17h sur RMC. C'est du ping. On est sur place en Croatie, Julien Beneteau. Alors qu'hier, tu nous disais, ouais, à Zadar. Hier, tu nous disais, s'il n'y avait pas les Français là-bas, on ne serait pas sur place. Ben oui, on est sur place. On est en finale.
Non, t'as pas écouté ce que j'ai dit.
Mais c'est un vrai symbole.
J'ai dit que s'il n'y avait pas Léna sur place, on n'en aurait peut-être pas parlé dans les. Je m'en fous pas.
J'ai tout simplement senti une pointe de malveillance qui te caractérise bien. Hier, la malveillance était là. Les frères Lebrun sont-ils des légendes du sport français? Déjà. Ah, là, ça va vous faire du mal.
Mais c'est bien sûr.
Et on hésite.
Et devant Lino, les Prince, les Noah, les Maréchaux et compagnie, les Tarek et les Douillet. Bravo, Georges.
Non, mais il a pas connu cette époque-là. Il sait pas qu'il était des légendes.
En fin d'émission, participez avec vos GG au jeu du sport. Vous en avez l'habitude. Vous pouvez remporter aujourd'hui votre PC portable de la marque française Altic. Ordinateur, une marque installée à Nantes. Pour participer, envoyez, appelez le 3216, touche 4, ou envoyez sport au 732-16, sport au 732-16, 32-16 pour parler avec vos GG pendant l'émission. Notre WhatsApp 06-12-424-424 pour nous envoyer des messages. Tiens, dites-nous d'où vous nous écoutez ce matin, par exemple, et notre compte X, évidemment. Mais d'abord, attention, événement. Le PSG n'est plus leader de Ligue 1 ce matin. L'OM est aux commandes après un feu d'artifice hier soir au Vélodrome.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
La frappe de Greenwood et le but marseillais. Mason Greenwood qui égalise. Il a pris son temps, mais la frappe de Greenwood. Oh, Mason Greenwood, on l'avait dit, il est capable en un crochet, en une frappe, en une action de débloquer une rencontre. Marseille mène 2-1 et provisoirement leader de Ligue 1.
Oh, le triplé, le triplé pour Mason Greenwood. Trois ballons à la surface de réparation et trois buts. Le triplé pour Mason Greenwood. L'Olympique de Marseille qui fait s'abattre la foudre sur le Havre. Bah, le centre en retrait pour Greenwood. Et ça fait 4. Et ça fait 4. Quadruplé pour Mason Greenwood. Et il y en a deux du gauche. Il y en a deux du droit désormais. Le centre au deuxième poteau, et ça fait 6 pour l'Olympique de Marseille. C'est Amir Mourinho qui vient marquer le 6e. C'est le spectacle total au stade Vélodrome.
C'est terminé, la victoire de l'OM spectaculaire au niveau du nombre de buts, au niveau du résultat final. 6-2, Marseille est le nouveau leader de Ligue 1.
Alors, bon, écoutez, Jump à fond les ballons à Marseille ce matin. Expression un peu désuète, à fond les ballons, je peux le reconnaître.
Ballons.
J'ai 37 ans, bonjour à tous. Victoire 6-2 au Vélodrome pour les Marseillais face au Havre. Ils étaient menés 1-0, hein, les Marseillais. Ils ont réagi après la double peine pour les Havres et expulsion de Gauthier Loris. C'est pénalty concédé à la demi-heure de jeu. La suite, c'est un quadruplé de Mason Greenwood, un but du rentrant, le jeune Robinho Vaz. C'est une réalisation d'Amir Mourinho pour conclure une deuxième période. Champagne des Olympiens. L'OM enchaîne avec une 5e victoire consécutive en Ligue 1 et devance le PSG d'un point au classement après 8 journées. L'OM devance le PSG d'un point au classement après 8 journées. Pas habituel. Le président Pablo Longoria était prudent sur les ambitions de l'OM cette semaine. Un trophée d'ici 5 ans. Marseille attend un trophée, je vous rappelle, depuis 13 ans. Les GG, je vous pose la question ce matin. Oui ou non, leader de Ligue 1, l'OM doit-il être ambitieux? Christophe Cessieux.
Bien sûr que oui.
Fred Weiss.
Oui.
Alizé Cornet.
Oui.
Julien Beneteau.
Oui, ils le sont déjà de toute façon. Mais, dans... mais ils sont cachés.
Ils sont cachés. Ils sont cachés où? Tu vas nous dire. Non. Tu nous diras où ils sont cachés dans quelques instants. Supporters marseillais, on vous attend au 32-16 sur notre WhatsApp au 06-12-424-424. Tiens, est-ce qu'il est caché? Non, il ne s'est pas caché. Il est venu en conférence de presse. Roberto De Zerbi, le coach marseillais, hier pour parler de l'ambition de l'OM. Il faut s'enflammer pour la première place, coach.
On pouvait être en tête du classement avec la meilleure attaque et la meilleure défense, mais c'est quand même un jour très important parce que l'OM est premier en tête du classement. Il faut aussi souligner que nous sommes le 18 octobre, pas le 18 mai, donc être en tête du classement aujourd'hui, ce n'est pas trop important.
c'est pas très important d'être premier. Bon, vous savez, il a toujours en plus ce côté perfectionniste. On aurait pu ne pas prendre de but. Hein. Je rappelle 6-2, donc le score. Christophe, l'OM doit être ambitieux.
Évidemment, mais l'OM est ambitieux même avant le début de la saison. Le problème, c'est que souvent l'ambition, elle tombe avec les résultats qui n'ont pas toujours été florissants depuis quelques années. Il faut rappeler par exemple que c'est la première fois depuis la saison 2014-2015 qu'à la 8e journée, l'OM est en tête devant le PSG. Bon, en 2015, qui avait été champion ? Le PSG.
Paris Saint-Germain.
Donc tu peux être ambitieux, mais il faut mettre les moyens autour de l'ambition. Et jusqu'à présent, il y a les moyens. C'est-à-dire que le recrutement a été impeccable du côté de Marseille. Ça tourne bien. De Zerbi se sent bien dans ce groupe. Greenwood est étincelant. Aubameyang, je veux dire, tout fonctionne bien. Tout fonctionne à merveille. Et ce qu'il y a de bien aussi, et je pense que tu veux venir aussi là-dessus, Julien, c'est qu'il ne le claironne pas sur les toits. Habituellement, à Marseille, quand tu es en tête, c'est « Ah, ça y est, on va les niquer, les Parisiens, on est tous champions !»
Qu'est-ce que c'est que ça?
Et en l'occurrence, plus tu l'ouvres et plus tu prends des gadins. L'année dernière, ils avaient été très ambitieux aussi, et puis ils avaient pris une rouste au Vélodrome face au Paris Saint-Germain. Là, vous avez entendu Longoria cette semaine, c'est « Oh, un petit trophée dans les 5 ans !» Alors qu'il rêve que d'être champion cette année. Mais il ne le dit pas, il ne le crie pas haut et fort. Mmh. Il n'enflamme pas tout ce monde, parce qu'il sait qu'à Marseille, tu mets la moindre allumette et ça peut partir en brioche. Donc, on y va piano. Massano, comme dirait Zerbi. Mais de l'ambition, évidemment qu'ils en ont, et ils ont raison d'en avoir.
Sacrée utilisation du portugais, il y a quelques instants, par Christophe Cessieux. Bennett, vivons heureux, vivons cachés, c'est ça, sur les ambitions?
Ils ne peuvent pas faire autrement. Je ne sais pas, Christophe a rappelé quand ils étaient leaders après 8 journées. Il y a une année, avec Bielsa, ils étaient leaders à la trêve même, donc c'est fin décembre. Et ils se sont écroulés après, ils ont même pas fini sur le podium en Ligue des Champions, ils ont fini 4e ou 5e. Donc l'année dernière c'était un peu pareil jusqu'au fameux premier match entre PSG et l'OM où PSG ils en ont pris 3.
Là, il y avait un point d'écart là.
J'aime bien ce que dit De Zerbi, il dit attention, on est le 18 octobre, on n'est pas le 18 mai. Et c'est une différence d'être leader le 18 octobre et d'être leader le 18 mai. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, c'est-à-dire que je rejoins Christophe sur le recrutement et le fait que De Zerbi arrive à faire tourner son équipe et que pour l'instant ça marche, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, il arrive à trouver une formule qui fonctionne. Et puis après, il y a l'hiver qui va arriver. Guiri, il va se faire opérer. Aubameyang, il va partir à la CAN. Donc déjà, pendant quelques matchs, pendant la CAN, t'as ni Guiri ni Aubameyang.
Guiri va se faire opérer, donc il va rater les 3 prochains mois. On rappelle, hein, il est touché à l'épaule, il va rater la CAN. C'est l'information d'hier soir aussi, information importante. Hein.
Donc il y a forcément dans une saison des moments qui vont être plus difficiles. C'est à ce moment-là de voir comment ils vont les gérer. Pour l'instant, tout va bien. Ils sont relevés de ce fameux premier match à Rennes avec l'affaire Rabiot et compagnie.
Tu parles de moments difficiles, ils ont commencé par un moment difficile.
Mais c'est rare après que du 10 août jusqu'au 10 mai, il n'y ait plus rien. Donc ils ont déjà eu un moment très difficile. Suite à Rabiot, il y a eu ce truc de recrutement. Est-ce que si Rabiot avait été resté, il y aurait eu tout ce recrutement-là, Pavard, Aguerd, Vermeeren et compagnie. Ces mecs-là ont vraiment apporté quelque chose en plus pour l'instant. Donc, pourvu que ça continue, mais... tranquillement.
Fred, moi je me rappelle il y a quelques semaines on avait fait le débat, est-ce que l'OM doit annoncer la couleur, est-ce que l'OM vise le titre. Toi t'étais en mode il faut le dire.
Genre je vais dire un truc, ça me paraît
me dire un truc
bizarre de dire qu'on a tous répondu à la même chose et qu'on n'est pas du tout d'accord. C'est quand même assez particulier parce que moi je suis aussi d'accord sur le fait qu'ils doivent être ambitieux, mais ils doivent l'assumer. L'OM prend l'aime parce que c'est le feu, parce que c'est quand ça va bien c'est le feu, quand ça va mal c'est l'orage, c'est affreux, c'est scandaleux, tout le monde va presque cracher sur les joueurs, mais c'est ça qu'on aime, c'est cette ambiance, c'est cette envie de montrer des choses. Faut arrêter de se cacher, c'est l'OM ça.
C'est pas parce que
t'as des ambitions et c'est pas parce que tu les affiches que tu vas être plus mauvais. Ça n'a rien à voir. Ça peut être au contraire une motivation. Mais t'as appris quelque chose, tu veux assumer ça et tu veux te servir de ça pour avoir une ambition. Alizé. Oui, évidemment, je parle à des tennisman. Vous n'avez pas ça. C'est que vous n'avez pas cette envie de parler en disant mais c'est une erreur. C'est une motivation extrême.
Alizé.
Mais moi, je rejoindrai un petit peu ce que.
Pas tous les tennisman alors.
Ce que dit Fred. Parce qu'en fait, d'une manière un peu plus globale, qu'est-ce que le sport de haut niveau sans l'ambition? l'ambition. En fait, ça, c'est un mot un peu tabou en France, hein, l'ambition. On n'assume pas d'être ambitieux, on n'assume pas d'aller chercher les étoiles. Dans d'autres pays, ce concept, il est complètement accepté, respecté. On a le droit, et c'est même très très bien vu, d'avoir envie de grandes choses. Là, l'OM, il se trouve qu'ils se sont peut-être un peu cassés les dents à certains moments quand ils ont un peu trop ouvert leur bouche, comme l'a dit
Christophe.
mais en l'occurrence, je pense que c'est une bonne chose d'assumer ses ambitions, d'avoir envie d'aller chercher le titre, même plusieurs. Et ça peut être une source de motivation, mais encore une fois, il faut arrêter d'être dans cette fausse modestie. En fait, c'est un peu être hypocrite.
Ouais, mais après, elle disait aussi, parce que nous, alors.
Se protéger.
La
modestie et l'ambition ne sont pas antinomiques. On peut être humble, faire le travail et avoir quand même envie d'aller chercher des grandes choses.
Parce que je pensais pas qu'on serait d'accord directement dès le premier débat. Ça fait plaisir parce que les deux-là n'ont pas d'ambition, c'est pour ça. Évidemment.
Le problème, c'est que l'humidité, c'est pas un sentiment très marseillais jusqu'à présent. Donc, en fait, là, ils luttent contre leur nature, parce qu'évidemment ils sont en tête du PSG. J'imagine là sur le vieux port,
soyons honnêtes aussi, Christophe. Nous médias faisons notre analyse. On demande peut-être aujourd'hui à l'OM d'être ambitieux, et si demain ils sont ambitieux mais qu'ils perdent un match, on va dire est-ce que l'OM finalement aurait pas dû être un peu
dans l'humilité. Il y a toujours quelque chose à dire.
Ça dépend comment ils communiquent. Ils le sont ambitieux. Tu crois que demain, lundi, quand ils vont se retrouver à l'entraînement, à la veille du match de Ligue des Champions, les Pavard, Balerdi et compagnie, ils vont pas dire.
Toi, tu penses que dans l'intimité, vous pensez que dans l'intimité, ils se disent cette année, on peut peut-être.
Mais c'est ça le plus important.
La différence, c'est le Longoria de cette année par rapport à celui de l'année dernière. Tu t'en souviens de ce qu'il disait l'année dernière? La corruption. Il avait complètement pété les plombs ce jour-là parce qu'il assumait son ambition. Il avait l'impression que tout le monde était contre Marseille. Le monde entier en voulait à l'Olympique de Marseille.
Ils ont appris les erreurs de l'année dernière.
Il a pété les plombs et cette année, il a mis de l'eau dans son vin. Il a calmé le jeu. Et je pense qu'il y a assez de température à Marseille pour faire monter justement
l'eau à l'ambition. Mais Christophe, c'est pas parce que tu n'es pas obligé de créer corruption. Tu peux te calmer toi un petit peu, mais toujours en disant quand même, je veux gagner,
tu crois qu'il dit quoi à ces joueurs?
Non, mais ce que je veux dire, il peut l'afficher. Pourquoi l'afficher? C'est tabou. Je rejoins
les gens.
Parce
que c'est différent à Marseille. La différence entre l'équipe, les joueurs, l'entraîneur, le staff technique, tout ça, et le reste de la ville et les supporters. C'est-à-dire que les supporters et le reste de la ville, là ce matin, ils sont tous au café, ils parlent que de ça.
Ben oui,
on est devant.
On va les taper.
Et si
c'est la une de la Provence ce matin, le local, l'OM leader.
Entretient un petit peu le feu, c'est ça qu'on aime. Non, c'est ça qui rend cette Ligue 1 intéressante. C'est un peu le feu.
Exactement.
Que nous on entretienne le feu, les médias, etc. Oui.
Mais aussi.
Mais l'équipe, non.
Mais c'est le Marseille qu'on aime, ça.
L'essentiel, c'est que l'ambition reste dans l'intimité de l'équipe, qu'elle soit présente. Et c'est vrai qu'après, de toute façon, ça va s'enflammer autour de l'équipe.
Oui, on aime bien que Longoria, De Zerbi mettent des petites pièces pour les supporters.
Mais ça dépend comment les joueurs le vivent derrière. Parce que l'essentiel, c'est qu'ils arrivent à trouver cette constance qui font qu'ils vont pouvoir réussir à rester numéro 1 plus longtemps.
Mais quelle serait la différence entre, pour la constance, entre justement afficher et ne pas l'afficher? La constance, c'est toi qui dois l'avoir en tant qu'athlète, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en tant qu'athlète, tu dois savoir ce que tu dois faire.
Oui.
C'est pas parce que on va dire que t'as des ambitions que tu vas pas être constant. Ça n'a aucun rapport, en fait. Tu l'as dit tout à l'heure et je te rejoins complètement.
Mais alors, est-ce que moi je veux rebondir sur ce que disait Christophe tout à l'heure? Est-ce que c'est pas finalement aussi une certaine forme de maturité? Je sais pas si c'est le bon mot, mais de la direction marseillaise.
Ça ressemble à un parachute.
Non, mais Pablo Longoria aussi a appris le rôle au fur et à mesure, tout comme Mehdi Benassia à côté de lui. Ils ont appris le rôle, la communication aussi. L'année dernière, c'est peut-être allé un petit peu trop loin.
Genre, ça ressemble à un parachute. C'est-à-dire qu'en gros, si on perd, on n'était pas si bien que ça, on vous l'avait dit depuis le début. Non, n'ayons pas de parachute, sautons comme ça et voyons ce qu'il arrive. C'est ça qu'on aime.
Que le mec est complètement taré.
C'est ça qu'on aime, l'ambiance partait. Allez, on saute dans le vide et c'est pas grave, on voit ce qu'il arrive.
Longoria, De Zerbi et Benassia, ils sont lucides sur une chose. C'est t'es premier, tu t'enflammes et t'essayes. Et que finalement tu finis quatrième ou cinquième parce que à un moment donné ça a craqué. Et ben c'est beaucoup plus problématique pour la pérennité du club que de finir deuxième ou troisième chaque année pendant 3-4 ans. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est stabiliser ce club en Ligue des Champions, le qualifier chaque année, avoir une forme de stabilité sportive et aussi un petit peu émotionnelle qui est compliquée à mettre en place à Marseille, mais qui est obligatoire pour avoir des résultats sur le moyen terme. Alors, et eux. Ils sont garants de ça par rapport au propriétaire McCourt.
Qui est arrivé il y a 9 ans, presque jour pour jour.
Ils doivent stabiliser ce club.
Julien, tu es en train de m'expliquer que s'ils perdent, c'est pas le feu directement là? s'ils perdent les deux prochains matchs, ça va pas être le feu direct. De toute façon, ça va être le feu. Donc autant le mettre directement toi et autant en
profiter. Mais si tu le mets avant, il sera exacerbé, je pense. Mais
il y a le goal.
Alors je suis même pas certain que ce soit exacerbé.
Ce mec c'est un Marseille.
Mais bien sûr, je veux que ça soit le feu à Marseille. Les supporters veulent ça.
Il met des pieds. Non mais en plus,
il s'ennuie
tellement à Limoges qu'il a envie qu'à Marseille, il y ait des feux partout. Non,
mais ce qui est intéressant. Mais moi, j'ai rêvé d'aller au Vélodrome, je rêve d'y aller, bien sûr.
Mais dans l'enflammade, l'année dernière, tu as parlé d'intelligence émotionnelle, je crois, il y a quelques instants, en tout cas de stabilité émotionnelle, Bennett, il y a quelques instants. Marseille, l'année dernière, sur les matchs moins importants, peut-être, il se laissait un petit peu aller. On se rappelle des matchs face à Auxerre où ils avaient beaucoup de mal à la maison. Là, on est sur 9 victoires consécutives, je crois, à la maison au Vélodrome. On est sur 5 victoires consécutives en Ligue 1. On est sur un match qui était après la trêve internationale. Marseille a assumé son statut. Aussi, c'est important dans un vestiaire.
Ils ont des joueurs. On avait parlé il y a quelques semaines ici même. Ils ont des joueurs d'un autre calibre qui ont une expérience. Et je pense notamment.
Et donc, ils supportent la pression, tu veux dire.
Bien sûr. À Pavard et à Gerd. Qui ont joué dans des grands clubs, dans des grands championnats, Hochberg aussi, et je pense que ces mecs-là, contaminent de la bonne manière le reste du groupe sur être constant, ne pas se faire perdre des points bêtement sur des matchs pièges comme hier après la trêve internationale, etc.
Non, pour résumer, en fait, juste, je voulais revenir sur le concept de l'ambition. C'est quelque chose de très, très sain, mais il faut arriver à trouver un compromis pour que tout le monde le vive de la bonne manière. Et visiblement, vu les résultats que Marseille enchaîne, ils ont trouvé un équilibre. Et en fait, pourquoi sortir cette équipe de son équilibre si ça marche à l'heure actuelle, si c'est ce fonctionnement qui leur convient? Voilà, moi, j'aurais tendance à avoir envie qu'il y ait du feu.
Mais je veux
Mais si on veut aussi que Marseille s'illustre cette année, il faut qu'il reste aussi dans cette dynamique. Et apparemment, voilà, cette ambition un petit peu dissimulée, ça a l'air de leur convenir.
Et une dynamique avec un groupe qui arrive à vivre avec un certain équilibre aussi entre les joueurs d'expérience, les jeunes qui rentrent et qui
n'allez
sont.
N'allez pas voir les matchs convenus en avril parce que ça sert à rien, ça va être une platitude voilà. Extrême.
Il y avait pas du tout dans les extrêmes.
Le feu!
Je suis pas tard, j'avais oublié, en plus, deux mois qu'il était complètement taré.
C'est Showtime avec Fred Bay, c'est la NBA, c'est comme ça, c'est un Américain. C'est l'Américain de Limoges.
Il a envie de mettre le feu à la NBA. Il va arriver avec des allumettes partout. Là.
C'est le capitaine. En plus, aujourd'hui, il a le brassard. Donc, il doit assumer son statut.
Moi, je ne suis pas un capitaine comme ça.
On revient dans quelques instants. Supporter marseillais, on vous attend au 32-16. Tiens, sur WhatsApp, au 06-12-424-424. J'ai Kevin, supporter marseillais, qui nous écoute depuis Toulon. Il nous dit allez, l'OM, cette année, c'est la nôtre. Voilà,
quelqu'un qui s'en plaint. Quelqu'un qui assume ses ambitions.
On revient dans quelques instants sur RMC. Tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport ce matin et jusqu'à midi en grande forme avec nous le pyromane Fred Weiss, Christophe Cessieux. Le kitesurfer. L'homme qui tire à balles réelles. Julien Benedetto. Et là, et Alizé Cornet, qui nous dit que l'ambition n'est pas tabou.
Personnellement, je regrette de ne pas avoir été plus ambitieuse dans ma carrière. Je pense que ça m'a manqué.
Pourtant, c'est vrai.
Je défends cette cause.
Moi aussi.
Oh là là, on aurait 10 grands chelems autour de la table si vous aviez été en
mission. Non, mais il n'y a pas de mal à voir les choses en grand, en fait.
Mais oui,
en
bien
France,
sûr.
On a du mal.
Et la jeune génération, elle est peut-être un peu plus ambitieuse. Les jeunes sportifs français.
Le problème,
là,
c'est que c'est les Monégas qui tapent les Français.
Ils envoient Valentin Vacheron la semaine dernière contre Rindorf Mesh. Allez, l'OM doit-il être.
Il y en a deux en finale ce week-end. Ils sont en phase finale de la Coupe Davis. Il y en a 15 dans les 100 premiers. Ils ne sont jamais contents.
On va en parler du tennis français dans quelques instants. Exactement, tu as raison. Tiens, l'OM est leader de la Ligue 1 ce matin après son succès 6-2. Tiens, c'est un score de tennis. Hier, face au Havre, l'OM doit-il être ambitieux? On attend les supporters marseillais au 32-16 pour savoir s'ils suivent l'enthousiasme de Fred Weiss. Claude nous appelle au 32-16. Salut Claude!
Ouais, bonjour l'équipe.
Bonjour.
Une grosse bise du sud, de Sanary, donc dans le Var, à côté de Toulon.
Magnifique, Sanary sur mer.
Il n'y a pas les cigales, elles sont parties.
Ah ouais, bon,
ça va pas les nuages.
Je fume
quand même
le cigare.
Vous avez les cigales dans la voix.
C'est voilà. Ça.
Bon, mais écoutez, bien sûr qu'on doit être ambitieux. Faut pas se cacher. Faut pas se cacher. Voilà, ça suffit. Ce matin, vous voyez, j'ai pas lu la, j'écoute la radio, je vous écoute. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, quoi, tout simplement. Et puis, on doit être ambitieux. Je me rappelle, comme je disais à Amina tout à l'heure, parce qu'elle ne le savait pas. Bon, parce que moi, je n'ai que 69 ans. Et RMC était sponsor de l'Olympique de Marseille il y a quelques années.
C'est sûr, la grande époque. Et oui, bien sûr.
C'est ceux qui signaient les chèques à l'époque, apparemment.
Voilà, voilà. Pendant, je sais pas, 4 ans, ils ont été sponsors maillot de l'Olympique de Marseille. Donc, en plus de ça, comme j'ai dit, Karine Galli, elle est revenue dans le Sud. Ça se voit à son parler. Et puis, bon, j'aime bien.
CMA-CGM,
c'est Marseillais.
C'est
Marseillais.
C'est
Marseillais.
C'est
Marseillais.
C'est
Marseillais.
C'est Marseillais.
C'est Marseillais. C'est Marseillais.
C'est Marseillais. C'est Marseillais. C'est Marseillais. C'est Marseillais.
Il faut être objectif parce que des fois on râle toujours les Marseillais, vous savez, on râle toujours, mais bon, dans le fond, ce matin, il n'y a pas les cigales, mais il y a le soleil. Soleil dans le cœur.
Toi, Claude, t'as envie d'entendre Roberto De Zerbi ou Pablo Longoria dire on joue le titre cette année, par exemple?
Il faut... Quand le PSG ils vont être complets, c'est pas pareil, hein. C'est pas la même mayonnaise, hein. Donc il faut être.
Mais est-ce qu'ils le seront un moment? C'est une vraie question, ça. Est-ce qu'ils le seront un moment au complet, le PSG?
Mais disons que en public ils vont peut-être tempérer, mais après en intérieur, à l'entraînement, ils vont se chauffer, les garçons. Et c'est normal. Vous savez comme on est chaud chez nous dans le Sud, enfin à Marseille, quoi. Je veux dire. Mais il faut de l'ambition. Il faut de l'ambition. Bien placé, pas être exubérant, pas respecté.
Mais c'est pas marseillais, ça, ne pas être exubérant. Il est pas marseillais, oui, ce leader-là.
Il faut.
C'est un faux accent, il vient de Lorraine, en fait.
C'est Fred Weiss.
Je vous ai reconnu.
Ah,
hein.
Ben oui, Fred Weiss, oh là là. Je l'aime bien, ce garçon. Je l'aime bien. Il aime son parler, c'est bien. Il parle au cash, c'est bien. C'est bon, il faut apprendre la mesure. Je veux dire, voilà, on sait d'où on vient peut-être, parce que bon, après, vous savez, nous, on a que 250 ou 280 millions d'euros de budget.
Oui. Hein,
ça aussi, ça, il faut en parler quand même. Donc, on va être le Napoli du Sud.
Ah ben voilà, le Napoli du Sud, pour aller renverser la capitale, pourquoi pas. Merci Claude de nous avoir appelé au 32-16. Un peu comme Bennett, hein, finalement. C'est, il faut avoir de l'ambition, mais il faut le dire. En même temps, on a quand même un peu envie de le dire.
Le problème, c'est qu'à Marseille, depuis des années, tu prends des coups de bâton tous les ans, donnés par le Paris Saint-Germain. Au bout d'un moment, tu apprends à dire bon, on va rien dire et on va le faire.
Est-ce que l'OM a les moyens de jouer le titre aujourd'hui? Mettons clairement les choses sur la table, Bennett. Il y a un effectif qui est meilleur.
Je pense que le PSG, je suis d'accord avec notre auditeur, je pense que le PSG au complet est largement au-dessus. Alors Fred a raison de souligner, est-ce que le PSG sera au complet cette année?
C'est une vraie question.
Mais ils sont là, bien plus forts.
Ça va dépendre aussi du parcours des uns et des autres en Ligue des Champions, c'est que ça prend du temps.
Le 15 octobre, hein, c'est loin. Hein.
Ça coûte des blessures,
exactement.
Comment les deux clubs vont s'en sortir avec ces deux compétitions. Il y a la préparation à la Coupe du Monde qui va aussi trotter dans les têtes de
certains. Avec Goury qui ne sera pas là, Aguerd aussi va partir à la CAN.
Quand on parle de Ligue des Champions, certains auront une ambition énorme, d'autres beaucoup moins, donc ils peuvent plus se concentrer sur la Ligue 1 aussi. Donc en termes de gestion, pourquoi pas. Sur le papier, effectivement, le PSG est plus fort. Et c'est indéniable. Mais par contre, il faut que tout le monde soit là, pas trop fatigué par la Ligue des Champions. Il y a quand même pas mal de facteurs.
Pour être ambitieux, l'OM a besoin de grands leaders. Un grand leader, on en a vu un sur le terrain hier, c'est Mason Greenwood, auteur d'un quadruplé pour la première fois de sa carrière. Roberto De Zerbi, son coach, en a parlé hier.
Mason peut faire des PO.
Mason peut faire mieux au-delà de marquer des buts. C'est déjà un top joueur face au but, mais il peut devenir l'un des meilleurs du monde car il en a la qualité. Il doit plus souvent donner des coups de main à ses équipiers, mais je tiens à protéger Mason des critiques. Il a toujours marqué beaucoup de buts, n'a jamais loupé un entraînement. Il se comporte bien.
Bien joli ce matin que Mason Greenwood est le premier Marseillais à marquer un quadruplé depuis Jean-Pierre Papin, notre membre de la Dream Team, il y a 35 ans. Non mais c'est important, Greenwood qui était performant l'année dernière, qui a un petit peu mené justement les Marseillais jusqu'à la place qualificative en Ligue des Champions, on a l'impression qu'il a encore progressé cette année. On rappelle, De Zerbi disait, quand je l'ai vu arriver à l'intersaison, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as jamais été aussi en forme que ça,
oui,
ça va être important.
Les deux, trois premiers matchs, il a joué en marchant et que c'était compliqué. Et contre le PSG, il a fait un vrai match.
Mais oui, parce qu'on lui reprochait de pas être au niveau contre les grandes
souvent
équipes.
Souvent contre les grandes équipes, effectivement, on lui disait qu'il était pas bon, et c'était vrai. En général, il s'effaçait et on le voyait pas trop quand même.
Et justement, je pense qu'il y a beaucoup d'exigences de la part de De Zerbi et du staff marseillais envers Greenwood, qui sont ils savent de quoi il est capable. Ils sont exigeants avec lui pour qu'il soit constant dans ces performances-là, pas marquer 4 buts par match, mais au moins dans les efforts, dans faire la différence et surtout courir comme le fait tous les mecs du PSG sous Luis Enrique et qui les a amenés au plus haut niveau européen. Et pour Greenwood, c'est ça, c'est cette constance dans les efforts que certains lui demandent et qui dans lequel il pêchait un petit peu auparavant.
Alizée, tu penses dans un sport de haut niveau comme ça, c'est important d'avoir un leader qui amène peut-être tout le monde derrière par ses performances.
Surtout dans un sport d'équipe. Alors nous, pour le coup, on l'a ressenti un peu en équipe de France dans le tennis, mais c'est vrai que le reste de l'année, on est tout seul, on doit être son propre leader. C'est pas facile avoir un exemple, avoir quelqu'un de qui s'inspirer. Mais après, d'après ce que je comprends de ce que dit Julien, c'est peut-être un joueur qui est encore un peu inconstant dans ses dépenses physiques, dans sa générosité physique. Mais c'est sûr que dans un groupe, c'est hyper important d'avoir un leader, c'est primordial.
Même le PSG, on parle beaucoup du PSG, mais finalement, il y avait un gros groupe, effectivement, mais il y a quand même ce leader qui était Dembélé et qui t'a permis de.
Mais toi, tu penses que Greenwood peut être le Dembélé de l'OM d'une certaine façon?
J'ai du mal à parler de Greenwood pour son passé, mais disons que oui, c'est un joueur assez exceptionnel qui est très bon devant le but. Ça, on va pas se mentir. Il faut pas qu'il s'efface, il faut qu'il soit plus constant, il faut qu'il fasse les efforts. Et je pense que c'est ce qu'on lui demande justement.
Calendrier de l'Olympique de Marseille, c'est important. Déplacement au Sporting Lisbonne en Ligue des Champions mercredi à 21h à suivre sur RMC évidemment. On va voir s'ils vont réussir à enchaîner après leur victoire impressionnante face à l'Ajax au Vélodrome. Et ensuite le calendrier de l'OM en championnat, déplacement à Lens, ensuite réception d'Angers. Ils vont à Auxerre. Donc il y a des points peut-être à prendre pour les Marseillais. On en parlait hier notamment pour essayer de rester à ce niveau-là. Tiens, je voulais quand même dire un petit mot de l'OM qui a retiré le numéro de Steve Mandanda hier. Le numéro 30 ne sera plus jamais porté. Lui qui a été capitaine pendant des années. C'est un truc très NBA ça, Fred.
C'est très basket, oui. On retire les numéros et moi je trouve ça magnifique. C'est un vrai honneur, c'est un vrai plaisir.
C'est très symbolique.
Pour nous en basket, en tous les cas, c'est important.
Et l'Olympique de Marseille peut remercier également le GC Nice d'avoir battu l'Olympique Lyonnais hier, ce qui a permis donc à l'OM de prendre la tête. Autrement, c'est Lyon qui aurait été bien.
C'était important de signaler.
Ah oui, faut signaler.
Merci, le GC.
J'ai retiré son maillot, mais sur la plage au Brésil.
On a retiré le poignet de Christophe Cessieu au Brésil. Il est resté là-bas. Allez, tout de suite, le zapping des grandes gueules du sport. On va parler de tennis, on va parler de rugby, de Formule 1. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que Julien Beneteau va faire du air zapping dans quelques instants? C'est un grand spécialiste. On va voir ça. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport ce matin avec Alizé Cornet, Christophe Cessieu, Fred Weiss et Julien Beneteau. On est parti dans une grande matinée d'enflammade. On l'a compris. Est-ce que tout le monde va suivre Fred Weiss aujourd'hui? C'est la question qu'on va se poser. En tout cas, moi, je remarque quand même que pour un dimanche matin, t'arrives à te réveiller à chaque fois avec un grand enthousiasme, Fred.
J'ai toujours du mal à beaucoup d'énergie. Mais là, oui.
Ouais. Pour vous mettre dans l'intimité parfois de l'émission, il m'arrive de faire des gestes à Fred pour lui dire un peu trop enthousiaste, Fred.
C'est vrai.
Un peu trop enthousiaste.
Pourquoi il t'arrive? Tu le fais à chaque fois.
Mais c'est ça qu'on veut.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi je te bride, en fait?
Mais c'est pas insupportable. Ça, je
un peu notre Marseillais des grandes gueules du sport.
Tiens, sur le WhatsApp des grandes gueules du sport. Fred en pleine enflammade. La chute risque d'être terrible, nous dit Mika. Dans quelques instants sur le ring des grandes gueules du sport, les exhibitions sont-elles une menace pour le tennis alors qu'Alcaraz et Sinner se sont affrontés hier en Arabie Saoudite pour 6 millions de dollars et une raquette en or? Voilà, je vous dis ça comme ça.
J'y vais.
C'est pas pour la raquette ou pour les 6 millions
pour
de dollars?
Pour les deux.
Pour les deux. Allez, tout de suite, les GG, vous me dites, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Je m'en fous pas. La guerre des étoiles, tiens. 4 stars du vélo, dont Pogacar et Vingegaard vont s'affronter en Andorre. Bah oui, ce dimanche. Christophe Cessieux.
Bah oui, ça m'intéresse.
Fred Weiss.
Moi, j'ai envie d'écouter Maria Azé, donc.
Lise Cornet.
Je sais pas, on peut dire je sais pas. Je m'en fous pas.
Bennett?
L'unique intérêt, c'est qu'il y a Maria, mais du coup, je m'en fous.
Non, mais là, du coup, la pression est incroyable.
Un vélo dans une exhibition,
c'est. Et vos exhibitions de tennis, là, qu'est-ce qu'on s'en fout aussi?
Bah, on s'en fout, c'est pareil.
C'est pour ça que je m'en fous pas, je suis curieuse, en fait.
La pression est terrible, du coup, sur Maria. Bonjour, Maria.
Salut,
tu es en Andorre, parce qu'il y a aujourd'hui donc cette épreuve qui réunit 4 stars du vélo, donc Pogacar, Vingegaard, on ajoute Primoz Roglic et Isaac Del Toro, le Mexicain. Bon, c'est quoi cette histoire? Tu nous expliques un peu?
Alors, cette histoire, c'est l'Office du tourisme d'Andorre qui a invité donc les meilleurs coureurs du monde, tu le disais, Pogacar, Vingegaard, Roglic et Del Toro, pour un affrontement à 4, sans coéquipiers, sur un contre-la-montre et un critérium. Alors, ça commence ce matin avec le contre-la-montre d'un peu plus de 8 km en montagne dans la Colada de la Galina. Et cet après-midi, c'est à Andorre-la-Vieille, la ville préférée de Christophe Cessieux, si vous ne savez pas, il déteste cette ville, qui accueille le critérium de 32 km en circuit dans la ville. Alors, ne cherchez pas à regarder ça, le but, c'est de tourner un documentaire de 50 minutes. Les coureurs sont filmés depuis leur arrivée hier jusqu'à leur départ ce soir. Le tout sera diffusé sur une grosse plateforme de streaming en fin d'année. Objectif, mettre en lumière Andorre, un territoire déjà très prisé par les coureurs cyclistes parce qu'il y a près de 150 coureurs qui y vivent, notamment le français Julien Alaphilippe, si vous ne le saviez pas. Vous vous en doutez, attirer les meilleurs coureurs du monde en fin de saison alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de partir en vacances, ça a un prix. Tadej Pogacar prendrait environ 150 000 euros pour la journée, plutôt un bon taux horaire. Reste à savoir si le documentaire sera à l'image de sa saison et se conclura par une énième victoire écrasante du Slovène.
150 000 euros pour la journée, c'est beaucoup moins que dans les exhibs de tennis. Ah, vraiment, là,
je crois que tout est tourné par Moscato à Andorre. Ah,
En Andorre, c'est lui qui a la caméra. Non, mais merci Maria, évidemment, on suit ça avec toi sur cette journée. Christophe,
écoute-moi. Alors, je ne sais pas que ça me plaise ou non, mais ça fait partie de la tradition des critériums en vélo. C'est-à-dire qu'une fois que la saison est finie, que les mecs sont en vacances, ils s'amusent à faire des critériums. Courses, ouais. Mais le calendrier n'est pas empiété du tout par ces exhibitions. À la différence de ce qui se passe en tennis, on en parlera tout à l'heure. Mais exact, tu vois, il y a la place. Après le Tour de France, t'as toute une série de critériums où à l'époque, les mecs allaient gagner leur blé là-dedans. Et ben, aujourd'hui, c'est ce genre de choses aussi. Donc, moi, qu'ils aient envie de s'amuser, que des gens aient envie de créer d'autres choses en dehors des courses. Tant que ça empiète pas sur le sportif, ça me dérange pas.
Alizé, créer des choses en dehors des courses, des trucs un peu plus fun, peut-être. On allait se poser la question aujourd'hui. Est-ce que le sport manque de fun parfois? Là, on voit des formats peut-être un peu différents avec quatre coureurs qui s'affrontent.
Ouais, c'est pour ça que j'ai répondu que je ne m'en foutais pas parce que j'étais curieuse de savoir ce que tu allais dire, Christophe, sur le sujet. Et effectivement, finalement, si ça permet déjà aux athlètes de prendre du plaisir et puis aux fans de cyclisme, là, en l'occurrence, de voir du beau spectacle, il n'y a vraiment aucune contre-indication. Je veux dire, plus il y a du sport qui est représenté, plus il y a des gens qui regardent et mieux c'est pour tout le monde. Donc, oui, moi, je suis absolument pas contre les choses qui empiètent pas, comme le disait Christophe, sur le real deal, comme on dit.
Le deal réel.
C'est une super traduction.
C'est pas marché réel, le contrat.
Allez, on zappe. On ne saura pas pourquoi Christophe déteste l'Andorre, mais ça sera un sujet à notre jour.
Un supermarché à ciel ouvert.
Moi, je suis allé en tournoi, c'est pas ouf.
C'est pas ouf. Je m'en fous pas. C'est pas ouf, l'Andorre. Je m'en fous pas. La section paloise, leader du top 14, après avoir renversé sur la sirène le Stade toulousain. Julien, Denis Charvet, Benetto.
Non, je m'en fous pas.
Alizé.
Ouais, j'adore le rugby, mais je m'en fous un peu.
Trop. Je m'en fous.
Parce que Pau.
Christophe, parce qu'il détestait Pau, évidemment, c'était son grand rival. Moi, je trouve ça très intéressant.
Succès au caractère. Donc, 30-26, après avoir été mené tout le match dans un match d'une folle intensité au Hameau. Quatrième victoire de rang pour les Palois. À domicile, on parlait hier, est-ce que le top 14 est de plus en plus excitant? Julien Landry nous disait, maintenant, les équipes regardent dans les yeux le Stade toulousain. Pau. Y aller en regardant dans les yeux Toulouse, hein. Donc
Oui, et à la différence de ce qui s'est passé la semaine dernière quand Bordeaux est allé à Toulouse, Toulouse là était avec une équipe qui était faite pour aller gagner à Pau, et les Palois ne s'en sont pas laissés compter, et on a eu droit à un vrai match de rugby avec de l'intensité et tout, et
super match.
Et super match de rugby. Là, c'est une très belle publicité pour le top 14, à la différence de ce qui s'est passé la semaine dernière.
Est-ce que tu crois qu'ils ont été ambitieux avant le match, du coup?
Les Palois, oui, parce que tu tapais le Stade toulousain, évidemment, c'est le rêve pour tout le monde. Et les Toulousains aussi aiment pas. Ils ont perdu à plusieurs reprises depuis le début de la saison. Ils voulaient confirmer ce qu'ils avaient fait la semaine dernière. Et ben là, ils sont tombés sur un os berné.
Attention. attention, Alizé, t'as dit je m'en fous. Hein. Et là derrière, t'as interrompu.
J'ai vraiment pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ok, je suis à la niche, quoi.
Il y a un truc, là où Toulouse, par rapport à l'année dernière, ça a peut-être un petit peu changé, c'est que à une minute de la fin, il y a 3 points d'avance pour Toulouse. Et Pau a une pénalité pour prendre le match nul.
Ouais.
Et ils vont chercher la touche pour essayer de gagner, en prenant le risque de reprendre qu'un seul point, etc.
L'ambition
de Pau, parce qu'ils sont sur leur
place. Ils avaient raison, en fait.
Et aussi, le fait que Toulouse soit tombé plusieurs fois cette année, ça donne des envies aux autres.
Pau ambitieux, là. Fred Weiss,
on a cité Pau dans cette.
C'est-à-dire que Pau est une vraie ville sportive à la défense de Limoges.
Waouh! On zappe, je m'en fous.
Et l'handball, c'est pas du sport.
Vous êtes en quelle division?
Première division, handball. Et en basket.
Non, mais vous jouez, vous êtes en haut de tableau.
Je pensais pas qu'on allait parler du handball à Limoges.
Je suis compliqué sur l'handball.
Je m'en fous pas. De la Formule 1, Verstappen en pole position après avoir gagné la course sprint. Les McLaren sont dans le doute. Fred Weiss.
Je s'en fous pas.
Alizé.
Je fais une Bennett, je m'en fous.
Bennett.
Non, je m'en fous pas.
C'est Christophe.
Je ne m'en fous pas, je ne me fous de rien, moi.
Les McLaren, donc, ont été dominés, se sont mis dehors, en fait, sur la course sprint. Verstappen l'a remporté. En plus, il va partir en pole aujourd'hui. Norris partira deuxième, Piastri sixième. Hein. Il reste 6 grands prix avec celui-ci. Il est revenu à 55 points, Verstappen, au classement des pilotes. En 3 courses et 1 sprint, il a comblé la moitié de son retard, Fred Weiss.
Bon, on a eu cette discussion. Tout le monde disait que c'était quasiment impossible qu'il revienne. Il avait trop de retard et il est en train de faire des choses incroyables. Il gagne là. En plus, la McLaren, pas de chance quand même. Elles se percutent alors qu'elles ont été aidées pour ça. Franchement, c'est très surprenant. Il va finir par le faire.
Il va finir par le faire
et ça va être juste monstrueux. Ça va être un moment de sport inoubliable. Donc, Verstappen.
On s'enflamme.
Et attention, on en parlait hier à Jar. C'est pas dans ton truc. Mais hier, il s'est planté au calife. Il est sorti tout seul comme un grand. Adjar. Dans le mur. Il est avant.
Il a la pression.
Il s'est mis la pression.
Oui.
Voilà. Mais après, c'est ce qu'il faut faire, nous dit Fred. Il faut mettre la pression.
Il faut se mettre la pression, mais bien sûr.
Évidemment, vous
ne supportez pas la pression. Donc, évidemment, c'est pas bon pour vous. Mais Alizé et moi, ça va très bien. Et nous, on se met la pression. Et on supporte. C'est tout. C'est la différence.
La pression, nous, on la boit, Fred.
La pression à la bouteille, ouais.
Je bois pas d'alcool.
Moi non plus.
Allez, on zappe. Grand Prix d'Austin à 21h ce soir avec Jean-Luc Roy, évidemment, The King. Je m'en fous pas. À une semaine du Masters 1000 de Paris, 2 Français sont en finale d'un tournoi en tennis aujourd'hui. Alizé.
Je m'en fous pas.
Ah bon, Bennett.
Je m'en fous pas.
Fred Weiss.
Quel sport.
Ouais. Je vais les laisser parler.
Christophe. Ouais. Corentin Moutet affrontera Daniil Medvedev aujourd'hui à midi à l'ATP 250 d'Almaty. Et Hugo Humbert, après l'abandon de son adversaire Holger Rune en demi-finale, sera lui opposé à Casper Rude pour le titre à l'ATP 250 de Stockholm. Bennett nous a dit hier, avec des joueurs comme ça, la Coupe Davis, on va peut-être y aller. On passe un bon moment là pour le tennis français, Alizé. Voilà,
là, on a une super cuvée de joueurs. Hein. En plus, de jeunes joueurs. C'est ça qui est aussi très encourageant. Entre la finale de Arthur Hinderknecht à Shanghai et puis tous ces Français qui s'illustrent au cours de l'année. Alors, il y a Hugo Humbert, il y a Corentin Moutet, mais il y a tous les autres aussi derrière. Bon, Alexandre Muller qui a très bien joué en début d'année, un peu moins.
Mpetchi qui revient là.
Mpetchi qui a bien joué, qui a fait une demi-finale. Ouais. Cette semaine, et c'est vrai qu'on a des joueurs avec des profils très très différents. Là, en l'occurrence, Hugo a eu quand même un petit coup de pouce du destin.
Rune s'est blessé.
Malheureusement, avec la blessure de Holger Rune qui s'est fait quelque chose au tendon d'Achille, on ne sait pas encore quoi. Mais en tout cas, il est en train de revenir à un très très bon niveau. Et moi, je pense que ce n'est pas dû au hasard. Il a redémarré sa collaboration avec Jérémy Chardy, son entraîneur qu'il avait déjà monté dans le top 20. Donc, à mon avis, cette collaboration, elle est quand même à la source de ce niveau qui revient pour Hugo. Et puis, Corentin, il surfe sur sa saison 2025.
Mais solide, hein,
incroyable.
Année,
je l'ai regardé jouer hier. Il a vraiment une variété dans son jeu. C'est vraiment un spectacle vivant à lui tout seul. Il fait tellement de choses sur le terrain. Et puis maintenant, il a réussi à se calmer, en fait, sur le court.
Avec son entraîneur Hugo Guerrero, ils ont trouvé un bon équilibre pour justement faire partir sa créativité. Physiquement, il est incroyable pour ses déplacements. Et aussi être un peu plus calme pour rester lucide sur ce qu'il doit faire.
Il a pris
ça
en maturité.
Ça veut dire qu'on va passer des tours au Rolex Paris Master. Ça veut dire qu'on ira en deuxième semaine à Roland-Garros, qu'on va approcher des quarts, des demi-finales.
C'est comme ces cyclistes français qui sont dans le top 3 du général autour de France.
Hugo Humbert, finaliste l'année dernière, je rappelle, à Paris.
Évidemment. Non, mais évidemment, là, c'est de bon augure pour la suite, pour Bercy. Alors, ce n'est plus Bercy, mais c'est vrai que l'appel encore
merci.
C'est très difficile de dire autre chose que merci.
Oui, tout à fait. Mais aussi Roland Garros l'année prochaine. Alors après, c'est pas forcément des spécialistes de terre battue pour l'instant, mais on a des joueurs avec des profils très très intéressants. Et moi, j'y crois.
Arthur Fils, il va redevenir tennisman.
Arthur, il faut qu'il se remette de sa blessure. Mais
fracture de fatigue au dos, on rappelle. On l'a pas revu depuis.
Mais c'est un joueur avec un énorme potentiel et qui est encore très très jeune. Donc surtout, ne le mettons pas dans la tombe. Ce serait une erreur quand même.
Non. Mais c'est moi, je m'inquiète parce que c'est
un gros potentiel. Il a eu un problème au dos qui doit prendre le temps de gérer. C'est pour ça.
Alors, en tout cas, chez les garçons, on a vraiment une génération qui est incroyable. Et chez les filles, c'est en train de monter doucement aussi.
C'est en train de monter doucement, effectivement. Il se passe peut-être quelque chose avec le tennis français. Est-ce que Carlos Alcaraz et Yannick Sinner seront à Paris la semaine prochaine? Ah, moi, je me pose la question maintenant. Où est-ce qu'ils vont zapper le Master? Pas les deux?
Non, mais
des infos, c'était les infos.
Il y a un truc quelque part là, il y a les miens chercher quelque part.
Ah, pour le coup, ce serait un peu choquant que les deux, voire l'un des deux, rate. Merci.
On va en parler dans quelques instants. Effectivement, les exhibitions sont-elles une menace pour le tennis alors qu'Alcaraz et Sinner sont affrontés hier en Arabie Saoudite pour 6 millions de dollars et une raquette en or. Allez, on revient dans quelques instants dans les grandes gueules du sport. On vous attend au 32-16 pour participer. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.